Chapitre 4. Jusqu'alors, on avait parlé assez souvent de Mademoiselle Thérèse. Assez souvent, on avait fait mention d'elle en passant, et presque toujours, Wilhelm avait été sur le point d'avouer à sa nouvelle amie qu'il avait offert à cette femme excellente son cœur et sa main. Je ne sais quel sentiment, qu'il ne pouvait s'expliquer, le retenait. Il balança si longtemps qu'enfin Nathalie elle-même, avec un sourire angélique, une sérénité modeste qui lui était ordinaire, dit à notre ami « Il faut donc que je parle et que j'entre de force dans votre confidence. Mon ami, pourquoi me faites-vous un secret d'un événement si important pour vous et qui me touche moi-même de si près? Vous avez offert votre main à mon ami. Ce n'est pas sans mission que j'interviens dans cette affaire. Voici mes titres. Voici la lettre qu'elle vous écrit, la lettre qu'elle vous envoie par mon entremise. »
« Une lettre de Thérèse ? » s'écria-t-il.
« Oui, monsieur, et votre sort est décidé. Vous êtes heureux. Recevez mes félicitations pour vous et pour mon ami. » Wilhelm resta muet, les yeux baissés. Nathalie l'observa, elle le vit pâlir. « La joie vous saisit, poursuivit-elle, avec tous les signes de la frayeur. Elle vous ôte l'usage de la parole. » « La part que j'y prends n'en est pas moins sincère, pour ne pas me rendre muette. J'espère que vous serez reconnaissant, car je puis vous le dire, mon influence sur la résolution de Thérèse n'a pas été peu considérable. Elle m'a demandé conseil, et par un singulier hasard, vous veniez d'arriver chez moi. J'ai pu dissiper heureusement les faibles doutes que mon ami avait encore. » Les courriers se sont succédés promptement. Voici la résolution, voici le dénouement. Il faut maintenant que vous lisiez toutes ces lettres. Il faut que vous connaissiez à fond le noble cœur de votre fiancé. Wilhelm ouvrit la lettre, qu'elle lui présenta non cachetée, et lut ces lignes affectueuses. Je vous appartiens, tel que je suis et tel que vous me connaissez. Vous êtes à moi, tel que vous êtes et que je vous connais. Ce que le mariage pourra changer en nos personnes et nos relations, nous saurons le supporter avec de la raison, du courage et de la bonne volonté. Comme ce n'est point l'amour, mais l'amitié et la confiance qui nous unissent, nous risquons moins que beaucoup d'autres. Vous me pardonnerez sans doute, si je me souviens quelquefois avec tendresse de mon premier ami. En échange, je presserai votre fils sur mon cœur avec les sentiments d'une mère. Si vous voulez partager dès à présent avec moi ma petite maison, nous serons seigneurs et maîtres. En attendant, l'acquisition du domaine se terminera. Je souhaite que l'on n'y fasse aucune nouvelle disposition sans moi, afin que je puisse d'abord me montrer digne de la confiance que vous m'accordez. Adieu, tendre ami, cher fiancé. Noble époux, Thérèse vous presse sur son cœur avec joie, avec espérance. Mon amie vous en dira davantage. Elle vous dira tout. » Wilhelm, à qui cette lettre avait rappelé parfaitement sa chère Thérèse, était aussi rentré tout à fait en lui-même. Pendant cette lecture, les pensées les plus soudaines se succédaient dans son âme. Il s'effrayait d'y trouver de vives traces d'amour pour Nathalie. Il se condamnait lui-même. Toute pensée pareille était à ses yeux une folie. Il se représentait Thérèse dans toute sa perfection. Il relut sa lettre et reprit sa sérénité. Ou plutôt, il fut assez maître de lui pour sembler la reprendre. Nathalie lui communiqua sa correspondance avec Thérèse. Nous en citerons quelques passages. Après avoir dépeint son fiancé à sa manière, elle ajoutait ces mots « Voilà comme je me représente l'homme qui m'offre aujourd'hui sa main. Quant au jugement qu'il porte de lui-même, tu le verras un jour par les feuilles dans lesquelles il se caractérise avec une entière franchise. Je suis persuadée qu'il fera mon bonheur. Pour ce qui concerne Laurent, tu sais comme j'ai pensé de tout temps sur ce point. Quelques personnes sont affreusement sensibles aux disconvenances des conditions et ne peuvent les supporter. Je ne prétends convaincre personne, mais je veux agir d'après ma conviction. Je ne songe point à donner un exemple, et je n'agis pas non plus sans avoir des exemples sous les yeux. Les disconvenances intérieures sont les seules qui me blessent. Un vase qui ne contient... Un vase qui ne convient pas à l'objet qu'il doit renfermer. Beaucoup de luxe et peu de jouissance. Richesse et avarice, noblesse et grossièreté, jeunesse et pédanterie, misère et ostentation. Voilà les disparates qui pourraient me faire mourir, dû le monde les consacrer par son empreinte et son estime. Quand je me flatte que nous sommes faits l'un pour l'autre, je me fonde essentiellement sur ce qu'il te ressemble, ma chère Nathalie, à toi, que j'estime et que j'honore infiniment. Oui, il a comme toi ce noble désir, cette ardeur de progrès qui nous permet de produire nous-mêmes le bien que nous croyons découvrir. Combien de fois ne t'ai-je pas blâmé en secret de traiter telle ou telle personne, de te conduire dans telle ou telle occasion, autrement que je n'aurais fait. Et pourtant, le résultat montrait d'ordinaire que tu avais raison. « Si nous voulons, disais-tu, prendre toujours les hommes tels qu'ils sont, nous les rendrons plus méchants. Si nous les traitons comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être, nous les amènerons où il faut les amener. Pour moi, je ne puis ni voir ni agir ainsi, je le sais parfaitement. L'intelligence, l'ordre, la discipline, la règle, voilà mon élément. Je me souviens que Jarno disait « Thérèse dresse ses élèves, Nathalie forme les siens ». Il alla même un jour jusqu'à me contester absolument la foi, l'amour et l'espérance. « Au lieu de la foi, disait-il, elle a l'intelligence. Au lieu de l'amour, la constance. Au lieu de l'espoir, la confiance. » Et je te l'avouerai, avant de te connaître, je ne voyais rien au-dessus d'une raison, pure et sage. Ton exemple seul m'a convaincue, animée, subjuguée, et je cède volontiers à ton âme. Et je cède volontiers à ton âme noble et belle le premier rang. C'est dans les mêmes sentiments que j'honore mon ami. Je vois, par le récit de sa vie, qu'il n'a cessé de chercher sans trouver. Mais ce n'est pas une recherche vaine, c'est une recherche admirable et naïve. Il imagine qu'on peut lui donner ce qui ne peut venir que de lui. Ainsi donc, ma chère, cette fois encore, ma pénétration me sert fort bien. Je connais mon époux mieux qu'il ne se connaît lui-même, et je l'en estime davantage. Je le vois, mais je ne vois pas au-delà, et toute mon intelligence ne suffit pas à pressentir ce qu'il peut faire encore. Quand je pense à lui, son image se confond toujours avec la tienne, et je ne sais comment je mérite d'avoir deux pareils amis. Mais je veux le mériter en faisant mon devoir, en accomplissant tout ce qu'on peut espérer et attendre de moi. Tu me demandes si je pense à Lothaire. J'y pense vivement et chaque jour. Je ne saurais me passer de lui, dans le cercle d'amis au milieu desquels je vis par la pensée. Ah, que je plains cet homme excellent, qu'une erreur de jeunesse a rendu mon parent et que la nature a voulu qu'il fût ton frère. En vérité, une femme telle que toi serait plus digne de lui que moi. C'est à toi seul que je pourrais, que je devrais le céder. Eh bien, soyons pour lui ce que nous pouvons être, jusqu'à ce qu'il trouve une digne épouse, et même alors, restons, vivons unis. » Mais que diront nos amis ? Reprit ensuite Nathalie. « Votre frère ne sait-il rien de ce mariage ?» Restons, vivons unis. Mais que diront-vous ? restons, vivons unis. »
Mais que diront nos amis ? Reprit ensuite Nathalie.
« Votre frère ne sait-il rien de ce mariage ? » dit Wilhelm.
« Non, pas plus que vos parents. Cette fois, toute l'affaire s'est traitée entre nous autres femmes. Je ne sais de quelle rêverie Lydie a rempli la tête de Thérèse. Elle paraît se défier de l'abbé et de Jarnot. Lydie lui a du moins inspiré quelques soupçons contre certaines liaisons et certains plans secrets, dont j'ai eu une connaissance générale, mais dans lesquels je n'ai jamais cherché à pénétrer. Et dans cette démarche décisive, elle n'a voulu laisser qu'à moi seule quelque influence. Elle était depuis longtemps convenue avec mon frère qu'ils s'en tiendraient à s'annoncer mutuellement leur mariage, sans se consulter à ce sujet. » Nathalie écrivit alors à son frère. Elle pria Wilhelm d'ajouter quelques mots. C'était le vœu de Thérèse. On n'allait qu'acheter la lettre, quand tout à coup, Jarnot se fit annoncer. On le reçut de la manière la plus amicale. Il paraissait lui-même de fort joyeuse humeur et ne put longtemps retenir cette exclamation. « Je viens tout exprès vous apporter une étonnante mais agréable nouvelle. Elle concerne notre chère Thérèse. Vous nous avez souvent blâmés, belle Nathalie, de nous inquiéter de tant de choses. Voyez pourtant comme il est bon d'avoir partout ses émissaires. Devinez et faites-nous voir une fois votre sagacité. » L'air de satisfaction avec lequel il prononça ces paroles, le sourire malin avec lequel il regardait Wilhelm et Nathalie, les persuadèrent tous deux qu'on avait découvert leur secret. Nathalie répondit en souriant, « Nous sommes beaucoup plus adroits que vous ne pensez. Nous avons déposé le mot de l'énigme dans cette lettre, avant même qu'on nous l'eût proposée. » En parlant ainsi, elle lui présenta la lettre qu'elle venait d'écrire à Lothaire, charmée de répondre de la sorte à la petite surprise et à l'embarras que l'on avait voulu leur causer. Jarnot prit la lettre avec quelque étonnement, il ne fit que la parcourir, fut saisi de stupeur et la laissa tomber de ses mains, regardant Nathalie et Wilhelm avec une expression de surprise et même d'effroi qu'on n'était pas accoutumé à voir sur son visage. Il ne disait pas un mot. Wilhelm et Nathalie étaient fort troublés. Jarnot allait et venait dans la chambre. « Que faut-il que je dise ? » s'écria-t-il. « Où dois-je même le dire ? La chose ne peut rester secrète. L'embarras est inévitable. Ainsi donc, secret pour secret, surprise pour surprise. Thérèse n'est pas la fille de sa mère. L'empêchement est levé. Je viens ici pour vous prier de préparer la noble jeune fille à épouser Lothaire. » Jarnot voyait le trouble de Wilhelm et de Nathalie, qui restaient les yeux baissés. « Cet accident, leur dit-il, est de ceux où la société nous importune. Les réflexions qu'il doit inspirer à chacun, on s'y abandonne mieux dans la solitude. Moi, du moins, je vous demande une heure de congé. » Jarnot courut au jardin. Wilhelm le suivit machinalement, mais de loin. Au bout d'une heure, les amis se rejoignirent. Wilhelm prit la parole. « Autrefois, quand je menais une vie sans but et sans dessein, légère et même frivole, l'amitié, l'amour, la confiance venaient à moi les bras ouverts et m'assiégeaient même, je puis dire. Maintenant que ma vie devient sérieuse, le destin paraît prendre à mon égard une autre voie. Ma résolution d'offrir ma main à Thérèse est peut-être la première que j'ai prise entièrement par moi seule. Je formais mon plan avec réflexion. Ma raison y donnait un plein assentiment, et le consentement de cette femme excellente avait comblé toutes mes espérances. Maintenant, le plus singulier hasard me force à laisser retomber la main que j'offrais à Thérèse. Thérèse me tend la sienne de loin, comme dans un rêve. Je ne puis la saisir, et cette belle apparence me fuit pour toujours. Adieu donc, vision charmante, et vous, image de la plus parfaite félicité, qui vous assemblez autour d'elle. » Wilhelm se tut quelques moments.
Il restait le regard fixe et rêveur, et, comme Jarnot allait prendre la parole, « Souffrez, dit-il, que j'ajoute quelques mots, car toute ma destinée est en jeu cette fois. En ce moment, je suis soutenu par le souvenir de l'impression que Lothaire fit sur moi la première fois que je le vis, et qui ne s'est jamais effacée. Cet homme mérite un attachement, une amitié sans bornes. Il n'est point d'amitié sans sacrifice. Pour l'amour de lui, il m'en coûta peu d'induire en erreur une malheureuse jeune fille. Pour l'amour de lui, je serai capable de renoncer à la plus digne fiancée. Allez, Jarnot, racontez-lui cette étrange aventure et dites-lui ma résolution. » Jarnot répondit « En pareil cas, l'essentiel, selon moi, est de ne rien précipiter. Ne faisons aucune démarche sans l'approbation de Lothaire. Je vais le rejoindre. Attendez tranquillement mon retour ou une lettre de lui. » Jarnot partit et laissa Nathalie et Wilhelm dans la plus grande tristesse. Ils eurent le temps de revenir de plus d'une manière sur cette affaire et de se communiquer leurs réflexions. Alors seulement, ils s'étonnèrent d'avoir accueilli si facilement la singulière déclaration de Jarnot, sans avoir demandé des détails. Wilhelm conçut même quelques doutes, mais leur étonnement, ou plutôt leur trouble, fut au comble le lendemain, lorsqu'un messager, envoyé par Thérèse, eut remis à Nathalie la lettre suivante. « Si étrange que cela puisse paraître, il faut que je t'écrive coup sur coup et te prie de m'envoyer promptement mon fiancé. Il faut que nous soyons unis, quelques plans que l'on forme pour me le ravir. Remets-lui l'incluse, mais sans aucun témoin, quel qu'il puisse être. » Voici la lettre adressée à Wilhelm. « Que pensez-vous de votre Thérèse ?» Que penserez-vous de votre Thérèse si tout à coup elle presse avec passion la conclusion d'un mariage que la plus calme raison semble avoir seule concerté? Que rien ne vous détourne de partir dès que vous aurez reçu ce billet. Venez, mon ami, mon cher ami. Vous êtes devenu trois fois mon bien-aimé depuis qu'on veut vous ravir, ou du moins vous disputer à Thérèse. « Que dois-je faire ? » s'écria Wilhelm après avoir lu ces lignes. « Jamais, en aucune occasion, répondit Nathalie après quelques réflexions. Mon esprit et mon cœur n'ont gardé un si profond silence. Je ne saurais que faire, comme je ne sais que conseiller. » « Serait-ce possible ? » s'écria Wilhelm avec véhémence. « Que Lothaire lui-même ne sût rien ? Ou s'il sait quelque chose, qu'il fût avec nous le jouet de mystérieux desseins ? Jarnot a-t-il improvisé cette fable à la vue de notre lettre ? Aurait-il parlé autrement si nous eussions été moins promptes ? Que veut-on ? Quel projet peut-on former ? De quel plan Thérèse veut-elle parler ? Oui, on ne peut le nier, Lothaire est environné d'influences et d'associations secrètes. J'ai moi-même éprouvé qu'on agit, qu'on observe, dans un certain sens, la conduite et les aventures de beaucoup de gens, et qu'on sait les diriger. Où tendent ces mystères, je l'ignore. Mais ce dernier dessein de me ravir Thérèse ne m'est que trop évident. D'un côté, on ne me présente peut-être que comme un leurre la possibilité du bonheur de Lothaire. De l'autre, je vois ma bien-aimée, ma vertueuse fiancée, qui m'ouvre ses bras et m'appelle. Que dois-je faire ? Que dois-je éviter ? Un peu de patience, dit Nathalie, un peu de réflexion. Dans ce bizarre enchaînement, je ne puis affirmer qu'une chose, c'est qu'il ne faut pas précipiter une démarche irrévocable. Contre une fable, contre un dessein artificieux, nous avons pour nous la persévérance et la sagesse. Nous saurons bientôt si la chose est vraie ou contre-ouvrée. Si mon frère peut vraiment espérer de s'unir à Thérèse, il serait cruel de lui ravir pour jamais ce bonheur au moment où il vient lui sourire. attendons seulement qu'il nous dise s'il sait quelque chose, s'il croit, s'il espère lui-même. » Une lettre de Lothaire vint heureusement à l'appui de ses conseils. « Je ne vous renvoie pas Jarnot, écrivait-il. Une ligne de ma main te persuadera mieux que tous les discours d'un messager. Je suis certain que Thérèse n'est pas la fille de sa mère, et je ne puis renoncer à l'espérance de la posséder, avant qu'elle en soit aussi persuadée, et qu'ensuite elle ait décidé, avec calme et réflexion, entre notre ami et moi. Je t'en prie, retiens-le auprès de toi. Le bonheur, la vie de ton frère en dépendent. Je te promets que cette incertitude ne durera pas longtemps. » « Vous voyez où en sont les choses ? » dit affectueusement Nathalie. « Donnez-moi votre parole d'honneur que vous ne quitterez pas le château. » « Je la donne, » dit-il en lui tendant la main. « Je ne partirai pas contre votre volonté. Je rends grâce à Dieu et à mon bon génie d'être dirigé cette fois, et surtout de l'être par Nathalie. » Elle écrivit à Thérèse tout ce qui s'était passé et déclara qu'elle ne donnerait pas congé à son amie. Elle lui adressa en même temps la lettre de Lothaire. Thérèse répondit « Je suis fort surprise que Lothaire lui-même soit convaincu. Il n'userait pas avec sa sœur d'une telle dissimulation. Je suis fâchée, très fâchée. Il vaut mieux que je n'en dise pas davantage. Et le mieux encore sera que je me rende auprès de toi, aussitôt que j'aurai casé la pauvre Lydie, que l'on traite cruellement. Je crains que nous ne soyons tous trompés, et que nous ne le soyons enfin de manière à ne pouvoir jamais nous reconnaître. Si notre ami pensait comme moi, il s'échapperait et viendrait dans les bras de sa Thérèse, que personne ne pourrait plus lui arracher. Mais je le perdrais, j'en ai peur, et je ne retrouverai pas Lothaire. C'est pour lui arracher Lydie qu'on fait briller de loin à ses yeux l'espérance de me posséder. Je ne dirai rien de plus. Le trouble va grandir encore. Le temps nous apprendra si, dans l'intervalle, les plus doux engagements ne seront pas tellement différés, ébranlés, bouleversés, qu'il n'y ait plus de remède quand tout sera éclairci. Si mon ami ne s'arrache pas à cette contrainte, j'irai dans peu de jours le chercher près de toi et m'assurer de lui. Tu es surprise de voir comme cette passion s'est emparée de ta Thérèse. Ce n'est point passion, c'est conviction que, puisqu'il m'a fallu renoncer à l'hôtel, ce nouvel ami fera le bonheur de ma vie. Dis-lui ces choses. Au nom du petit chasseur qui était assis avec lui sous le chêne, et que sa sympathie rendrait heureux. Dis-lui ces choses au nom de Thérèse, qui a répondu avec une cordiale franchise à sa proposition. La vie que j'avais rêvée avec Lothaire est bannie loin de ma pensée. Celle que je rêve auprès de mon nouvel ami m'est encore toute présente. Suis-je si peu estimée que l'on croit qu'il m'est bien facile d'échanger deux rechefs en un clin d'œil, mon nouveau fiancé contre le premier? Je me fie à vous. Mon nouveau fiancé contre le premier? Je me fie à vous, dit Nathalie à Wilhelm en lui communiquant la lettre de Thérèse. Vous ne fuirez pas. Songez que le bonheur de ma vie est dans vos mains. Mon existence est tellement unie et enchaînée à celle de mon frère qu'il ne peut sentir aucune douleur que je ne sente avec lui, aucune joie que sa sœur ne partage. Lui seul, je puis le dire, m'a fait sentir que le cœur peut être ému, élevé, qu'il peut exister dans la vie de la joie, de l'amour et un sentiment qui satisfait tous les besoins de l'âme. Nathalie s'arrêta. Et Wilhelm, lui prenant la main, « Oh, poursuivez, lui dit-il, le moment est venu de nous témoigner une véritable et mutuelle confiance. Nous avons plus que jamais besoin de nous mieux connaître. » « Oui, mon ami, dit-elle en souriant avec une dignité paisible, d'une douceur inexprimable, Il n'est peut-être pas hors de propos de vous le dire, tout ce que les livres, ce que le monde nous présente sous le nom d'amour, ne m'a jamais semblé qu'une fable.
Vous n'avez jamais aimé ?
Jamais, ou toujours, répondit Nathalie.
Chapitre 5. Pendant cette conversation, ils s'étaient promenés dans le jardin. Nathalie avait cueilli quelques fleurs de forme rare qui étaient complètement inconnues à Wilhelm et dont il demanda les noms.
« Vous ne soupçonnez pas, dit Nathalie, pour qui je cueille ce bouquet ? Il est destiné pour mon oncle, à qui nous allons faire une visite. Je vois que le soleil éclaire vivement la salle du passé. C'est le moment de vous y conduire, et je ne m'y rends jamais sans y porter quelques-unes des fleurs que mon oncle préférait. C'était un homme bizarre et susceptible des impressions les plus singulières. Il y avait certaines espèces de plantes et d'animaux, certains hommes et certaines contrées, et même certains genres de pierreries pour lesquelles il sentait une préférence marquée et rarement explicable.
« Si, dès ma jeunesse, disait-il souvent, je n'avais lutté vivement contre moi-même, si je ne m'étais efforcé d'étendre et de développer mon intelligence, je serais devenu le plus étroit et le plus insupportable des hommes, car il n'est rien de plus insupportable qu'une étroite bizarrerie chez l'homme duquel on peut exiger une pure et convenable activité. »
Et pourtant, il était obligé d'avouer que le souffle et la vie lui auraient manqué, en quelque sorte, s'il n'avait usé, de temps en temps, d'indulgence envers lui-même, et ne s'était permis de goûter avec passion des jouissances qu'il ne pouvait toujours approuver ni excuser.
« Ce n'est pas ma faute, disait-il, si je n'ai pu mettre en parfaite harmonie mes penchants et ma raison. »
Dans ces occasions, il avait coutume de plaisanter sur mon compte, et il disait « On peut estimer Nathalie bien heureuse dès ce monde, car sa nature ne demande rien qui ne s'accorde. On peut estimer Nathalie bien heureuse dans ce monde, car sa nature ne demande rien qui ne s'accorde avec les désirs et les besoins de l'humanité. »
En parlant ainsi, ils étaient revenus dans le bâtiment principal. Nathalie conduisit Wilhelm par une spacieuse galerie à une porte aux côtés de laquelle se voyaient deux sphinx de granit. La porte même était dans le style égyptien, un peu plus étroite par le haut que par le bas, et ses battants de bronze préparaient un spectacle sévère et même lugubre. Comme on était agréablement surpris de voir, au lieu de ce qu'on attendait, la scène la plus riante, en entrant dans une salle où l'art et la vie faisaient oublier la mort et la sépulture. Dans les murs s'ouvraient des arcades régulières où reposaient de grands sarcophages. Dans les piliers intermédiaires, on voyait des ouvertures plus petites, ornées d'urnes et de vases. D'ailleurs, la surface des murs et de la voûte était régulièrement divisée. Entre des encadrements, des guirlandes et des ornements gracieux et variés étaient peintes d'expressives et riantes figures dans des espaces de différentes grandeurs. Les divers membres d'architecture étaient revêtus d'un beau marbre jaune tirant sur le rouge. Des filets d'un bleu clair, d'une composition chimique, imitaient heureusement le lapis lazuli. Et en satisfaisant l'œil par le contraste, donnait à l'ensemble de l'unité et de la liaison. Toute cette pompe et ses ornements se présentaient avec des proportions pures, et chaque visiteur se sentait comme élevé au-dessus de lui-même, parce qu'il apprenait, à la vue de cette harmonieuse architecture, ce qu'est l'homme et ce qu'il peut être. En face de la porte, sur un magnifique sarcophage, une statue de marbre représentait un homme vénérable, appuyé sur un coussin. Il tenait un manuscrit roulé, sur lequel son regard s'arrêtait avec une attention tranquille. Le rouleau était tourné de façon qu'on y pouvait lire aisément ces mots « Songe à vivre !»
Nathalie, après avoir enlevé un bouquet fané, plaça le nouveau devant la statue de son oncle, car c'était lui que représentait la statue. Et Wilhelm crut se rappeler les traits du vieux seigneur qu'il avait vu dans la forêt. « Nous avons passé bien des heures dans cette salle, » dit Nathalie, « jusqu'à ce qu'elle fût achevée. Dans ces dernières années, mon oncle avait appelé près de lui quelques artistes habiles, et son plus grand plaisir était de les aider à inventer et à choisir les dessins et les cartons de ses tableaux. » Wilhelm ne pouvait assez admirer les objets qui l'entouraient. « Que de vie, » disait-il, « dans cette salle du passé. On pourrait tout aussi bien la nommer la salle du présent et de l'avenir. Ainsi furent toutes choses, ainsi seront-elles. Rien n'est passager que l'individu qui jouit et contemple. Cette image de la mère qui presse son enfant sur son cœur verra passer bien des générations de mères heureuses. Après des siècles peut-être, un père contemplera avec joie cet homme à longue barbe qui oublie sa gravité et joue avec son fils. Dans tous les temps, la fiancée attendra son époux avec cette pudeur, et au milieu de ses vœux secrets, aura besoin qu'on la rassure et la console. L'époux prêtera l'oreille sur le seuil de la porte avec la même impatience pour savoir s'il ose le franchir. Les regards de Wilhelm se promenaient sur d'innombrables tableaux. Depuis le joyeux instinct de l'enfance, qui exerce et déploie ses membres dans les jeux, jusqu'à la gravité tranquille du sage retiré du monde, on pouvait voir, dans une suite de belles et vivantes peintures, que l'homme ne possède aucune force, aucune inclination native, sans la mettre en usage. Depuis le premier sentiment de satisfaction naïve chez la jeune fille, qui tarde à retirer sa cruche de l'eau limpide où elle se plaît à contempler son image, jusqu'à ces grandes solennités où les rois et les peuples prennent, devant les autels, les dieux à témoin de leurs alliances, tout se montrait plein de sens et de force. C'était un monde, c'était un ciel, qui environnait dans ce lieu le spectateur. Outre les pensées que réveillaient ces images, outre les sentiments qu'elles inspiraient, on croyait y reconnaître la présence de quelque chose encore, qui s'emparait de l'homme tout entier. Wilhelm en fit l'épreuve à son tour, sans pouvoir se l'expliquer. « Quelle est donc, s'écria-t-il, cette influence qui, indépendamment du sens de l'objet, et de toute sympathie que nous inspirent les aventures et les destinées humaines, peut agir sur moi avec tant de force et de charme. Elle me parle par l'ensemble, elle me parle par chaque détail, sans que je puisse comprendre l'un ni m'approprier les autres. Quelle magie j'entrevois dans ces surfaces, ces lignes, ces proportions, ces masses et ces couleurs. D'où vient que ces figures, considérées même superficiellement, produisent comme simple décoration un effet si agréable? Oui, je le sens, on pourrait s'arrêter ici, y goûter le repos, tout embrasser du regard, se trouver heureux et se livrer à des pensées et des sentiments tout différents de ceux qui naissent des objets que l'œil rencontre. Et assurément, si nous pouvions exprimer comme tout. se trouvait heureusement distribué, et comme chaque objet, mis en son lieu par liaison ou par contraste, par unité ou variété de couleurs, paraissait tel qu'il devait paraître, et produisait une impression à la fois claire et complète, le lecteur se trouverait transporté dans un lieu d'où il ne voudrait pas s'éloigner de sitôt. 4 grands candélabres de marbre étaient aux angles de la salle. 4 plus petits au milieu, autour d'un sarcophage d'un très beau travail qui, à juger par sa dimension, avait dû renfermer les restes d'une jeune personne de moyenne stature. Nathalie s'arrêta près de ce monument et en le touchant de la main, elle dit « Mon oncle avait une grande prédilection pour cette œuvre de l'Antiquité. Il disait quelquefois « Les premières fleurs que vous pouvez conserver là-haut dans ces espaces étroits ne sont pas les seules qui tombent. Il en est de même des fruits qui, suspendus à la branche, nous donnent longtemps encore de belles espérances, tandis qu'un ver intérieur prépare leur maturité précoce et leur destruction. « Je crains, ajouta-t-elle, qu'il n'ait prophétisé sur la chair enfant, qui semble se dérober par degrés à nos soins et se pencher vers cette paisible demeure. » Comme ils allaient sortir, Nathalie ajouta ces mots. « Voici encore un détail sur lequel je dois attirer votre attention. Observez là-haut, des deux côtés, ces ouvertures demi-circulaires. Là peuvent se tenir cachés les chanteurs, et ces ornements de bronze, au-dessous de l'entablement, servent à soutenir les tapisseries, qui, d'après l'ordre de mon oncle, doivent être tendues pour chaque inhumation. Il ne pouvait vivre sans musique, et surtout sans musique vocale, et par un goût particulier, il ne voulait pas voir les chanteurs. Il disait toujours « Le théâtre nous donne les plus mauvaises habitudes. La musique n'est là en quelque sorte qu'au service des yeux. Elle accompagne les mouvements et non les sentiments. Dans les oratorios et les concerts, la figure du musicien nous distrait sans cesse. La véritable musique est toute pour l'oreille. Une belle voix est ce que l'on peut imaginer de plus universel. Et quand l'être borné qui la produit se montre à nos yeux, il détruit le pur effet de cette universalité. Je veux voir tout homme avec qui je dois parler, car c'est un individu dont la figure et le caractère ôtent ou donnent de la valeur à ses paroles. Mais celui qui chante, pour moi, doit être invisible. Je ne veux pas que sa figure me séduise ou m'égare. C'est seulement un organe qui parle à un organe, et non un esprit qui parle à l'esprit. Ce n'est pas un monde d'une variété infinie qui parle aux yeux. Un ciel qui s'ouvre à l'homme. » Il voulait aussi que pour la musique instrumentale, l'orchestre fût caché autant que possible, parce qu'on est toujours distrait et troublé par les mouvements mécaniques et les attitudes gênées et bizarres des musiciens. Aussi avait-il coutume d'écouter toujours la musique les yeux fermés, pour concentrer tout son être dans la pure jouissance de l'oreille. Ils allaient quitter la salle lorsqu'ils entendirent les enfants courir à toutes jambes dans la galerie et Félix crier « Non, c'est moi, c'est moi !» Mignon s'élança la première dans la salle. Elle était hors d'haleine et ne pouvait dire un mot. Félix, qui était encore à quelque distance, s'écria « Maman Thérèse est arrivée !» Il paraît que les enfants avaient fait gageure à qui apporterait le premier cette nouvelle. Mignon tomba dans les bras de Nathalie. Son cœur battait avec violence. « Méchant enfant !» lui dit Nathalie. « Tout mouvement excessif ne vous est-il pas défendu ? Comme votre cœur bat !»« Qu'il se brise !» dit Mignon avec un profond soupir. « Il bat depuis trop longtemps !» On était à peine remis de ce trouble et de ce saisissement que Thérèse entra. Elle courut à Nathalie et l'embrassa, ainsi que la bonne Mignon. Puis elle se tourna vers Wilhelm, fixa sur lui son regard limpide et lui dit « Eh bien, mon ami, où en sommes-nous? Vous ne vous êtes pas laissé abuser, je l'espère. » Elle fait un pas au-devant d'elle, elle court à lui et se jette à son cou. « Oh, ma Thérèse !» s'écria-t-il. « Mon ami, mon bien-aimé, mon époux, oui, je suis à toi pour toujours !» s'écria-t-elle en l'embrassant avec transport. Félix la tirait par sa robe et lui disait « Maman Thérèse, moi aussi je suis là !» Nathalie restait immobile, les yeux baissés. Mignon porta tout à coup la main gauche à son cœur, étendit vivement le bras droit et, poussant un cri, tomba comme morte aux pieds de Nathalie. La frayeur fut grande. On n'apercevait plus aucun battement du cœur. Wilhelm la prit dans ses bras et se hâta de l'emporter. Le corps, sans consistance, retombait derrière ses épaules. Le médecin donna peu d'espérance. Il fit, avec le jeune chirurgien que nous connaissons, des efforts inutiles. On ne put ramener à la vie l'aimable enfant. Nathalie fit un signe à Thérèse, qui prit son amie par la main et l'entraîna hors de la chambre. Il était sans voix et n'avait pas le courage de chercher le regard de son amie. Il était assis près d'elle, sur le canapé où il avait trouvé d'abord Nathalie. En un clin d'œil, il passa en revue toute une suite d'événements, ou plutôt, il ne pensait point. Il laissait agir sur son âme des sentiments qu'il ne pouvait bannir. Il y a des moments dans la vie où les événements, semblables à des navettes ailées, passent et repassent devant nous et achèvent sans relâche une trame que nous avons plus ou moins filée et ourdie nous-mêmes. « Mon ami, mon bien-aimé, » dit Thérèse après un moment de silence en prenant la main de Wilhelm. « Tenons-nous fermement unis dans ce moment, comme nous devrons peut-être le faire, plus d'une fois encore, en des circonstances pareilles. Voilà de ces événements que l'on ne peut supporter si l'on n'est pas deux dans le monde. Songez, mon ami, sentez que vous n'êtes pas seul. Montrez que vous aimez votre Thérèse. Montrez-le d'abord en partageant vos douleurs avec elle. » Elle l'embrassait et le pressait doucement contre son sein. Wilhelm la prit dans ses bras avec les plus vives étreintes. « La pauvre enfant !» s'écria-t-il. « Cherchez dans ces moments de tristesse un refuge et un abri sur mon cœur agité. Que la fermeté du tien vienne à mon secours en cet affreux moment. » Ils se tenaient étroitement embrassés. Wilhelm sentait le cœur de Thérèse battre contre sa poitrine. Mais le désert et le vide étaient dans son âme. Les images de Mignon et de Nathalie flottaient seules, comme des ombres, devant ses yeux. Nathalie entra. « Donne-nous ta bénédiction, » s'écria Thérèse, « que dans ce triste moment, nous soyons unis devant toi. » Wilhelm avait caché son visage sur le sein de Thérèse. Il avait trouvé des larmes secourables. Il n'entendit pas l'arrivée de Nathalie. Il ne la vit pas. Mais, au son de sa voix, ses larmes redoublèrent. « Ce que Dieu unit, je ne veux pas le séparer, » dit Nathalie en souriant. « Mais je ne puis vous unir, et je ne saurais approuver que la douleur et l'amour semblent bannir absolument de vos cœurs le souvenir de mon frère. » À ces mots, Wilhelm s'arracha des bras de Thérèse. « Où courez-vous ? » s'écrièrent les deux amis. « Laissez-moi, » dit-il, « laissez-moi voir l'enfant que j'ai fait mourir. Le malheur que nous voyons de nos yeux est moins terrible que si notre imagination l'imprime violemment dans notre âme. Voyons cet ange envolé. Sa figure sereine nous dira qu'elle est heureuse. » Les dames, ne pouvant retenir Wilhelm désespéré, le suivirent. Mais le bon docteur, qui vint au-devant d'eux avec le chirurgien, les empêcha d'approcher de la morte. « Éloignez-vous, leur dit-il, de cet objet douloureux, et permettez-moi de donner, autant que mon art le permettra, quelque durée au reste de cette mystérieuse créature. Je veux exercer sans délai sur l'enfant qui vous fut cher le bel art qui ne se borne pas à embaumer un corps, mais qui lui conserve les apparences de la vie. Comme je prévoyais sa mort, j'ai fait tous les préparatifs, et je réussirai avec le secours de mon confrère. Accordez-moi quelques jours, et ne demandez pas de revoir la chère enfant avant que nous l'ayons transportée dans la salle du passé. » En ce moment, le jeune chirurgien tenait la trousse que Wilhelm avait déjà vue dans ses mains. « De qui peut-il bien l'avoir acquise ? » demanda-t-il à Nathalie.
« De qui peut-il bien l'avoir acquise ? » demanda-t-il à Nathalie.
« Je la connais parfaitement, » répondit-elle. « Il la tient de son père qui vous pensa dans la forêt. »
« Je ne m'étais donc pas trompée, » dit Wilhelm.
« J'avais reconnu tout de suite le ruban. Oh, cédez-le-moi. C'est lui qui m'a mis d'abord sur la trace de ma bienfaitrice. À combien de plaisir et de peine peut survivre un objet inanimé tel que celui-là ? Que de souffrances dont il fut le témoin, et sa trame subsiste encore. Combien de personnes il a vues à leur moment suprême, et ses couleurs ne sont point flétries. Il était présent à l'un des plus beaux moments de ma vie, quand j'étais blessée, couchée par terre, quand votre beauté secourable apparut devant moi, quand, les cheveux ensanglantés, elle prenait les plus tendres soins de ma vie, l'enfant dont nous pleurons la mort. » Les amis n'eurent pas le loisir de s'entretenir longtemps de cet événement funeste et d'apprendre à Thérèse l'origine de Mignon et la cause probable de sa mort soudaine, car on annonça des étrangers, et lorsqu'ils parurent, on fut bien surpris de voir Lothair, Jarnot et l'abbé. Nathalie courut au-devant de son frère, les autres personnes gardèrent un moment le silence. Bientôt, Thérèse dit à Lothair en souriant, « Vous ne comptiez guère me trouver ici. Il n'est pas trop sage de nous rapprocher dans ce moment. Cependant, recevez ma cordiale salutation après une si longue absence. » Lothair lui tendit la main et répondit, « S'il faut une fois se résoudre à la souffrance et au renoncement, on peut s'y soumettre, même en présence de l'objet désirable et chéri. Je ne prétends exercer aucune influence sur votre résolution, et ma confiance en votre cœur, votre raison et votre pure intelligence est toujours si grande que je remets volontiers entre vos mains mon sort et le sort de mon ami. » La conversation fut mise aussitôt sur des matières générales et même insignifiantes. Les amis se dispersèrent deux à deux. Nathalie était sortie avec Lothair, Thérèse avec l'abbé. Wilhelm et Jarnot restèrent dans la maison. L'apparition des trois amis au moment où Wilhelm était accablé de douleur, au lieu de le distraire, avait irrité et assombri son humeur. Il était chagrin et défiant, et ne put et ne voulut pas s'en cacher quand Jarnot lui reprocha son silence morose. « Qu'attendre encore ? » disait Wilhelm. « Voici Lothair avec ses conseillers. Il serait étrange que les mystérieuses puissances de la tour, qui sont toujours si actives, n'agissent pas sur nous maintenant et n'accomplissent pas, avec nous et sur nous, je ne sais quel projet bizarre. Autant que je puis connaître ces saints hommes, leur louable dessein semble être constamment de séparer ce qui est uni et d'unir ce qui est séparé. Quel tissu cela pourra former à la fin ? C'est là, je pense, une énigme éternelle pour nos profanes yeux. » « Vous montrez du chagrin et de l'amertume ? » dit Jarnot. « C'est fort bien. Si vous pouvez une fois vous fâcher tout de bon, ce sera mieux encore. »
Vous pourrez avoir cette satisfaction, répliqua Wilhelm, et je crains fort que l'on ait envie de pousser à bout, cette fois, ma patience naturelle et acquise.
Je pourrai donc, s'il vous plaît, dit Jarnot, en attendant l'issue des événements, vous raconter quelque chose de la tour, contre laquelle vous paraissez nourrir une grande méfiance.
Comme il vous plaira, si vous voulez essayer, malgré ma distraction. Mon esprit est occupé de tant de choses que j'ignore si je pourrais donner à ces beaux récits toute l'attention qu'ils méritent.
Les agréables dispositions où vous êtes, repartit Jarnot, ne me détourneront pas de vous éclairer sur ce point. Vous me jugez un habile personnage, je vous apprendrai à me tenir aussi pour un homme d'honneur. Et qui plus est, je suis chargé cette fois « Je voudrais bien, » reprit Wilhelm, « vous entendre parler de votre propre mouvement et avec la bonne intention de m'éclairer. Mais comme je ne puis vous entendre sans méfiance, que me sert-il de vous écouter ?»«
Si je n'ai rien de mieux à faire maintenant que de conter des fables, vous avez bien aussi le loisir d'y prêter quelque attention. Peut-être y serez-vous mieux disposé si je commence par vous dire...
Tout ce que vous avez vu dans la tour n'est proprement que le débris d'une tentative de jeunesse, que la plupart des initiés firent d'abord très sérieusement et dont ils ne font que sourire aujourd'hui lorsqu'il leur arrive d'y songer.
Ainsi donc, ces symboles, ces discours imposants ne sont qu'un jeu ?
S'écria Wilhelm. On nous conduit solennellement dans un lieu qui nous inspire du respect. On fait passer devant nos yeux les visions les plus étranges, on nous donne des parchemins pleins de maximes excellentes, mystérieuses, dont nous ne comprenons à la vérité que la moindre partie. On nous révèle que nous avons été jusque-là des apprentis, on nous congédie, et nous sommes aussi sages qu'auparavant.
N'avez-vous pas cet écrit sous la main ? Dit Jarnot. Il renferme beaucoup de bonnes choses. Car ces maximes générales n'ont pas été prises en l'air. Elles ne paraissent obscures et vides qu'à celui chez qui elles ne réveillent le souvenir d'aucune expérience. Prêtez-moi cette lettre d'apprentissage si vous l'avez à votre portée.
Tout à fait, répliqua Wilhelm. Il faudrait porter toujours sur son cœur une si précieuse amulette.
Eh, qui sait ? Dit Jarnot en souriant. Si ce qu'elle renferme ne trouvera pas quelque jour une place dans votre tête et votre cœur.
Jarnot prit la lettre, y jeta les yeux et parcourut la première moitié.
Ceci, ajouta-t-il, se rapporte à la culture du sentiment du beau. D'autres pourront en parler. La seconde moitié parle de la vie. Là, je suis sur mon terrain. Là-dessus, il se mit à lire certains passages, entremêlant à sa lecture des réflexions et des récits. La jeunesse a pour le mystère, pour les cérémonies et les grands mots, un goût singulier, et c'est souvent le signe d'une certaine profondeur de caractère. À cet âge, on veut sentir tout son être saisi et touché, ne fût-ce que d'une manière vague et obscure. Le jeune homme, qui a beaucoup de pressentiments, croit découvrir mille choses dans un mystère. Il croit y mettre beaucoup et devoir agir par ce moyen. L'abbé fortifia dans ses sentiments une société de jeunes gens, suivant en cela ses principes, aussi bien que ses goûts et ses habitudes, car il s'était affilié jadis à une société qui paraît avoir elle-même exercé secrètement une grande influence. J'étais le moins bien disposé pour ces mystères. J'étais plus âgé que les autres, assez clairvoyant dès mon enfance, et ne demandais en toute chose que la netteté. Tout mon désir était de voir le monde tel qu'il est. Cette fantaisie fut comme une contagion que je communiquais aux meilleurs adeptes, et il s'en fallut peu que toute notre discipline n'en reçût une fausse direction, car nous commençâmes à ne voir que les défauts des autres et leur esprit borné, et à nous croire nous-mêmes des génies. L'abbé vint à notre secours et nous apprit qu'on ne doit pas observer les hommes sans prendre intérêt à leur perfectionnement, et qu'on n'est en état de s'observer et de s'étudier soi-même que dans une vie active. Il nous conseilla de maintenir les anciennes formes de la société. Nos assemblées furent donc toujours soumises à quelques règlements. Le caractère mystique des premières impressions se révélait dans l'organisation de l'ensemble. Dans la suite, il prit, comme par allégorie, la forme d'un métier qui s'élevait jusqu'à l'art. De là les dénominations d'apprentis, de compagnons et de maîtres. Nous voulûmes voir par nos yeux et nous créer des archives particulières de notre expérience. Telle est l'origine des nombreuses confessions que nous avons écrites nous-mêmes
ou que d'autres ont rédigé à notre instigation et dont furent ensuite composées les années d'apprentissage. Tous les hommes ne s'occupent pas de leur perfectionnement moral. Un grand nombre ne demande autre chose qu'une recette pour arriver au bien-être, à la richesse et à toute espèce de jouissance. Tous ces gens-là, qui ne voulaient pas marcher par eux-mêmes, nous savions les arrêter ou nous en délivrer avec des mystifications et des simagrées. Nous ne donnions, à notre façon, des lettres d'apprentissage qu'à ceux qui sentaient vivement et reconnaissaient clairement pourquoi ils étaient nés et qui s'étaient assez exercés pour suivre leur sentier avec quelque allégresse et quelque facilité. « Vous vous êtes bien pressé avec moi, » repartit Wilhelm, « car depuis ce moment, je sais moins que jamais ce que je puis, ce que je veux ou dois faire. » Nous sommes tombés dans cet embarras sans qu'il y ait de notre faute. La bonne fortune pourra nous en tirer. En attendant, écoutez. Celui chez lequel il y a beaucoup de choses à développer s'éclaire plus tard sur lui-même et sur le monde. Peu de personnes sont à la fois capables de méditer et d'agir. La méditation agrandit, mais elle paralyse. L'action vivifie, mais elle restreint. Je vous en supplie, ne me lisez plus de ces sentences bizarres. Ces phrases ne m'ont que trop embrouillé l'esprit. Je m'en tiendrai donc au récit, poursuivit Jarnot, en roulant à moitié le manuscrit, sur lequel il ne faisait que jeter les yeux par intervalle. J'ai rendu moi-même fort peu de service aux hommes et à notre société. Je suis un très mauvais instituteur. Il m'est insupportable de voir quelqu'un faire des tentatives malheureuses. Quand un homme s'égare, il faut que je le crie aussitôt à ses oreilles, fût-ce même un somnambule que je verrais en danger et sur le point de se rompre le cou. Là-dessus, j'étais toujours aux prises avec l'abbé, qui soutient que l'erreur ne se peut guérir que par l'erreur. Nous avons aussi disputé souvent à votre sujet. Il vous avait pris en singulière affection, et c'est déjà quelque chose d'attirer à ce point son attention. Pour moi, vous me rendrez cette justice que je ne vous ai rencontré nulle part sans vous dire la pure vérité. Vous m'avez peu ménagé, dit Wilhelm, et vous paraissez demeurer fidèle à vos maximes. Et pourquoi ménager un jeune homme plein de bonnes dispositions qu'on voit prendre une direction absolument fausse ? Permettez, dit Wilhelm, vous m'avez refusé assez durement toute espèce de talent pour le théâtre. Et quoique j'aie entièrement renoncé à cet art, je ne puis me reconnaître tout à fait incapable de l'exercer. Et moi, je suis persuadé que celui dont tout le talent est de se jouer lui-même n'est point un véritable comédien. Celui qui ne peut transformer de mille manières et son esprit et sa figure ne mérite pas ce nom. Vous avez par exemple très bien joué Hamlet et quelques autres rôles, où vous étiez secondé par votre caractère, votre figure et la disposition du moment. Cela pourrait suffire pour un amateur du théâtre ou pour un homme qui ne verrait aucune autre carrière devant lui. Jarnot jeta les yeux sur le parchemin et poursuivit en ces termes. On doit se garder de cultiver un talent qu'on n'a pas l'espérance de porter à la perfection. Si loin qu'on avance, quand une fois on aura vu clairement le mérite du maître, on finira toujours par regretter amèrement le temps et les forces qu'on aura perdus à ce bousillage. « Ne lisez pas, dit Wilhelm, je vous en conjure. Parlez, racontez, éclairez-moi. C'est donc l'abbé qui me seconda pour la représentation d'Hamlet en me procurant un fantôme ? Oui, car il assurait que c'était le seul moyen de vous guérir, si vous étiez guérissable. Et c'est pour cela qu'il me laissa le voile et me commandait de fuir ? Oui, il espérait même qu'après avoir joué Hamlet, vous en auriez assez du théâtre. Il affirmait que vous ne... Il affirmait que vous ne paraîtriez plus sur la scène. Je croyais le contraire, et j'eus raison. Ce fut le soir même, entre nous, après la représentation, le sujet d'une discussion très animée.
« Vous m'avez donc vu jouer ?»«
Assurément. »
« Et qui représenta le spectre ?»«
Je ne puis le dire moi-même. Ce fut l'abbé ou son frère jumeau. Je penche à croire que ce fut celui-ci, car il est un peu plus grand. »
« Vous avez donc aussi des secrets entre vous ?»«
Les amis peuvent et doivent avoir mutuellement des secrets, mais ils ne sont pas eux-mêmes un secret l'un pour l'autre. »
« La seule pensée de cette confusion suffit pour me confondre. Éclairez-moi, je vous prie, sur l'homme à qui je suis si redevable et à qui je puis adresser tant de reproches. »«
Ce qui nous le rend si précieux, répondit Jarno, ce qui lui assure en quelque sorte l'empire sur nous tous, c'est le coup d'œil libre et pénétrant que lui a donné la nature pour juger toutes les forces qui résident chez l'homme. » Et dont chacune est susceptible d'un développement particulier. La plupart des hommes, même les plus distingués, ont des vues bornées. Chacun estime, chez lui et chez les autres, que certaines qualités. Il ne favorise que celles-là. Il ne veut pas en voir cultiver d'autres. L'abbé agit tout autrement. Il comprend tout. Il s'intéresse à tout pour le constater et l'encourager. « Laissez-moi revenir à la lettre d'apprentissage, » poursuivit Jarno. « L'humanité se compose de tous les hommes, le monde de toutes les forces réunies. Elles sont souvent en lutte, elles cherchent à se détruire, mais la nature les relie en faisceaux et les remet en jeu. Depuis le plus humble et le plus grossier travail mécanique jusqu'au plus sublime exercice des beaux-arts. » Depuis le bégaiement et les cris de l'enfant, jusqu'aux plus admirables accents de l'orateur et du chanteur. Depuis les premières querelles des enfants, jusqu'aux immenses préparatifs destinés à la défense ou à la conquête des empires. Depuis la plus légère bienveillance et l'amour le plus passager, jusqu'à la plus violente passion et au plus sérieux engagement. Depuis le sentiment le plus net, de la présence matérielle jusqu'aux plus vagues pressentiments et aux espérances de l'avenir le plus éloigné et le plus idéal. Toutes ces choses, et bien d'autres, existent dans l'homme et doivent être cultivées, et non seulement dans un seul, mais chez le grand nombre. Chaque aptitude est importante et doit être développée. Si l'un ne cultive que le beau et l'autre que l'utile, l'un et l'autre ensemble ne font qu'un homme complet. L'utile s'encourage de lui-même, car la multitude le produit, et nul ne peut s'en passer. Le beau a besoin d'être encouragé, car peu de gens le produisent, et beaucoup en ont besoin.
« Assez !» s'écria Wilhelm. « J'ai lu tout cela. »
Encore quelques lignes seulement. Voici où je retrouve l'abbé tout entier. Une force domine l'autre, mais aucune ne peut former l'autre. Chaque disposition naturelle renferme en elle-même, en elle seule, la faculté de se perfectionner. C'est ce que comprennent peu les hommes qui se mêlent pourtant d'agir et d'enseigner.
« Et je ne le comprends pas non plus, » dit Wilhelm.
Vous entendrez souvent l'abbé discourir sur ce texte. En attendant, voyons bien clairement et maintenant ce qui est en nous et ce que nous pouvons cultiver en nous. Soyons justes envers les autres, car nous ne sommes estimables qu'autant que nous savons estimer autrui.
Oh, nom de Dieu, plus de sentence! C'est, je le sens, un mauvais remède pour un cœur blessé. Dites-moi plutôt, avec votre cruelle exactitude, ce que vous attendez de moi, et comment et de quelle manière vous prétendez me sacrifier.
« Bientôt, je vous l'assure, vous nous demanderez pardon de tous vos soupçons. À vous d'examiner, de choisir, à nous de vous seconder. L'homme n'est pas heureux avant que ses aspirations infinies se soient limitées elles-mêmes. Ne vous attachez pas à moi, mais à l'abbé. Ne pensez pas à vous, mais à ce qui vous entoure. Apprenez par exemple à bien connaître les qualités supérieures de l'auteur. Comme son jugement et son activité sont unis de nœuds indissolubles. comme il est en progrès continuel, comme il se développe et entraîne chacun avec lui. Où qu'il soit, il amène avec lui tout un monde. Sa présence anime et enflamme. Voyez, en revanche, notre bon docteur. Il semble être justement l'opposé de Lothaire. Tandis que Lothaire n'exerce son action que sur un ensemble, et même sur les objets éloignés, le docteur ne dirige son regard clairvoyant que sur les objets les plus proches. Il procure des moyens d'agir, plutôt qu'il ne provoque et n'excite l'activité. Sa manière est la parfaite image d'un bon économe. Son influence est secrète, car elle se borne à seconder chacun dans sa sphère. Sa science est une récolte et une distribution perpétuelle. Il amasse et il communique en détail. Lothaire détruirait peut-être en un jour ce que le docteur met des années à bâtir. Mais peut-être aussi, un moment suffirait-il à Lothaire pour communiquer aux autres la force de reconstruire au centuple ce qu'il aurait renversé.
« C'est une triste occupation, » répondit Wilhelm, « de méditer sur le mérite des autres, dans le moment où l'on n'est pas d'accord avec soi-même. De pareilles réflexions conviennent à l'homme paisible, et non à celui qui est agité par la passion et l'incertitude. »
Une méditation tranquille et sage ne saurait jamais nuire. Quand nous nous accoutumons à considérer les avantages des autres hommes, les nôtres se rangent insensiblement à leur véritable place, et nous renonçons alors volontiers à toute fausse activité à laquelle notre imagination nous convie. Délivrez, s'il est possible, votre esprit de tout soupçon et de toute inquiétude. Voici l'abbé. Soyez aimable avec lui, en attendant que vous appreniez mieux encore combien vous lui devez de reconnaissance. Le fripon, il vient à nous entre Nathalie et Thérèse. Je gagerai qu'il médite quelques projets. Comme, en général, il aime à jouer un peu le rôle du destin, il a quelquefois aussi la fantaisie de faire des mariages. Wilhelm, dont l'irritation et la mauvaise humeur n'avaient pas été adoucies par les sages et bonnes paroles de Jarno, trouva fort déplacé que son ami parlât de choses pareilles dans ce moment, et dit, en souriant, mais non sans amertume, « Je croyais qu'on laissait la fantaisie de faire des mariages aux personnes qui prennent fantaisie de s'aimer. »